Radio Prague, les informations. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Le Premier ministre Petr Nečas a indiqué que Prague ne se joindrait pas au pacte pour l'euro. Inondation, la Commission européenne va verser une aide de près de 11 millions d'euros à la République tchèque. Et puis en football, les Tchèques seront au complet pour affronter les champions du monde espagnol vendredi. La République tchèque ne rejoindra pas le pacte pour l'euro qui doit faire l'objet de débats en fin de semaine lors d'un sommet organisé à Bruxelles. Selon le Premier ministre tchèque, ce pacte entraînerait une harmonisation fiscale qui n'est à son avis pas souhaitable pour l'Union européenne. Petr Nečas, qui s'exprimait mercredi devant les députés, a également regretté que ce pacte ait été négocié par les pays membres de la zone euro sans consultation avec les autres États membres. Il n'a cependant pas exclu que Prague pourrait rejoindre plus tard ce pacte qui doit permettre de renforcer les mécanismes de surveillance et d'intervention rapide au sein de la zone euro. Les pays ne disposant pas de la monnaie unique peuvent y participer de manière volontaire. La Commission européenne a annoncé ce mercredi que la République tchèque allait recevoir une aide de 10,9 millions d'euros pour faire face aux dégâts provoqués par les graves inondations en août dernier. Selon le communiqué de presse officiel, cette subvention doit permettre, je cite, « de prendre en charge une partie des coûts supportés par les pouvoirs publics dans cette situation d'urgence, notamment pour remettre en état les infrastructures essentielles ». Responsable du Fonds de solidarité de l'Union européenne, le commissaire Johannes Hahn a indiqué que cette catastrophe faisait suite aux inondations que le pays a déjà subies en mai 2010 et que l'aide de l'Union européenne était par conséquent doublement nécessaire. Les brasseries membres de l'Union tchèque, des brasseries et malteries ont produit 15,7 millions d'hectolitres de bière en 2010, soit un volume total inférieur de près de 8% à celui de 2009. Les brasseurs expliquent cette baisse de la demande, notamment par l'augmentation du droit d'assise sur la bière instaurée en début d'année dernière. 2010 a cependant été la troisième année consécutive marquée par une baisse de la production des brasseries tchèques. On passe au sport et au football. Les 22 joueurs convoqués par le sélectionneur Michal Bilek pour affronter l'Espagne et le Liechtenstein vendredi et mardi prochain dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2012 de football ont rejoint Grenade en Espagne mercredi après-midi pour ce match contre l'Espagne, championne du monde et championne d'Europe en titre. Les Tchèques pourront compter sur leurs meilleurs joueurs, aucun d'entre eux ne souffrant d'ennuis de santé ou de pépins physiques. Absent lors des derniers matchs de qualification pour cause de blessure, l'attaquant Milan Baroš est également présent avec 6 points en 3 matchs. La République tchèque occupe, rappelons-le, la deuxième place du groupe A, du groupe I, pardon. On termine avec un mot de météo. Ce n'est pas encore le moment de ressortir les maillots de bain, mais comme ces derniers jours, le soleil reste très présent sur l'ensemble du territoire. Jeudi, jour de la fête des Gabriels, les températures sont en légère hausse et varient entre 14 et 18 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Tout de suite, retrouvez Alexis Rosenzweig pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Prague à l'écoute du programme en français. Merci à Guillaume pour ce bulletin. Au programme aujourd'hui du cinéma, avec la sortie très attendue dans les salles du premier film de l'ancien président Václav Havel. Et de la culture toujours ensuite avec le festival Afrique en création, un festival qui se déroule en ce moment à Prague et Anna Kubišta vous en dira un peu plus dans quelques instants. Et puis un sujet lié malheureusement à l'actualité et à la crise nucléaire japonaise dans le chapitre de l'histoire dans la deuxième partie de ce programme avec un retour sur l'accident de Tchernobyl et les réactions en Tchécoslovaquie. Et l'événement cinéma cette semaine en République tchèque, c'est bien sûr la sortie de Odkrazeni sur le départ en français, le premier film de l'ancien président de la République Václav Havel, un premier long métrage qui est l'adaptation pour le grand écran de sa dernière pièce de théâtre, une pièce qui racontait l'histoire d'un chancelier qui doit quitter le pouvoir et voit son monde s'écrouler. C'est un lieu symbolique qui a été choisi pour les premières projections du film de Václav Havel à Prague, le cinéma Lucerna, construit par son grand-père il y a un siècle. Václav Havel a été habitué depuis l'enfance au plateau de tournage, mais cette fois-ci, c'était la première fois en tant que réalisateur.
C'est une expérience très spéciale, pozoruhodná, C'est une expérience assez étrange et intéressante que j'ai espéré avoir pendant très longtemps. Je viens d'une famille de cinéastes. Mon oncle a fondé la cinématographie tchèque et fait construire les studios Barrandov à Prague. J'ai passé mon enfance dans le milieu du film et c'est peut-être l'une des raisons qui m'ont poussé à vouloir devenir réalisateur.
Ani 60. léta svou atmosférou neumožnila, aby mě přijali na FAMU, filmovou školu.
L'atmosphère des années 1950 et même 1960 ne m'a pas permis d'être accepté à la faculté du cinéma, sans laquelle il était exclu de travailler dans le cinéma. Donc j'arrive dans le cinéma déjà vieux à la fin de ma carrière. Et comme je suis un débutant, je me suis entouré de vrais professionnels, à commencer par le caméraman Malich, le producteur Bocek et d'autres.
Líbíš se mi, Albíne? Nevím. Ano, asi.
Le film est une adaptation très fidèle de la pièce que Václav Havel a publiée en 2007, 4 ans après la fin de son dernier mandat présidentiel et le retour à son premier métier, celui de dramaturge. Le thème reste très politique, avec des anecdotes qui semblent autobiographiques. Le personnage principal, le chancelier en partance pour la retraite, est un humaniste assez dépité par les arrivistes corrompus qui vont lui succéder au pouvoir. Sa compagne est interprétée par l'actrice Dagmar Havlová, l'épouse de Václav Havel.
En ce qui concerne la réalisation en tant que telle, je pense que c'est un beau film. Il s'est très vite adapté. Je pense que son deuxième ou troisième film pourra déjà être très bien.
L'accueil de la critique a été plutôt froid, même si beaucoup ont montré une certaine indulgence pour le leader de la révolution de velours passé derrière la caméra. Michal Prochaska est un journaliste tchèque spécialiste du 7e art.
En fait, comme presque tout le monde, j'étais un petit peu déçu parce que le film, basé sur une pièce de théâtre de Václav Havel, offre bien sûr beaucoup de thèmes assez personnels, beaucoup de petites blagues, beaucoup de petites autodérisions sur lui. Mais en tout cas, ce qui ne marche pas, c'est vraiment le cadre cinématographique. On a une impression de regarder un peu une sorte de film des années 60 tchèque, mais sans vraiment la force de la cinématographie de l'époque. Son pièce de théâtre était beaucoup meilleure que son film. À la fin du visionnement, je me disais que, en fait, ce sont des amis qui ont tourné un film pour eux-mêmes. Mais est-ce que ça va apporter quelque chose, notamment au public étranger ? Ça, je sais pas.
Reste à savoir d'abord comment le public tchèque va réagir. En tout cas, à bientôt 75 ans, Václav Havel vient de rajouter une nouvelle ligne à un CV déjà hors du commun. Dramaturge, dissident emprisonné, chef d'État et maintenant réalisateur. Un rêve qui lui tenait très à cœur et qu'il a enfin réalisé malgré une santé très fragile. À peine sorti d'un nouveau séjour à l'hôpital, il tenait d'ailleurs à être présent pour la première du film. Suite de ces faits événements avec jusqu'au 27 mars le festival Afrique en création qui se déroule à Prague, un festival dont l'un des plus grands mérites est de faire connaître un continent souvent méconnu des Tchèques. L'édition 2011 d'Afrique en création est d'ailleurs un peu particulière, comme l'a précisé sa fondatrice Lucie Niemeczkova au micro d'Anna Kubishta.
Déjà au lycée, je me suis intéressée aux relations franco-tchécoslovaques. Après, j'ai décidé d'aller étudier le français et l'histoire. Et quand j'ai fait mon travail de licence, j'ai par hasard rencontré M. Fauché, qui m'a parlé de son père, de lui-même, de l'amitié franco-tchécoslovaque. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens très intéressants, qu'il y a un exil tchèque ou tchécoslovaque qui vit en France et que je ne connais pas du tout. Donc je me suis décidée de s'intéresser à cette problématique. Voilà.
Pour parler un petit peu de cette première vague, finalement, parce qu'on peut dire que c'est une première vague entre 48 et 68. Est-ce que vous pourriez un petit peu faire une typologie des personnes qui émigrent? C'est qui? C'est des hommes politiques? C'est des artistes? Est-ce que, et dans quelles conditions en général émigrent-ils? Est-ce que vous pourriez citer quelques personnes, un peu des personnes phares de cette première vague? Et puis également me dire si en fait ce sont des personnes qui sont liées par exemple à des partis politiques, en particulier tchèques.
En 1948, il y avait beaucoup de personnes qui sont émigrées et il y avait une situation en Europe très difficile parce qu'il y avait beaucoup d'émigrés, de gens sans la nationalité. Et, en général, l'exil tchécoslovaque a voulu partir aux États-Unis, mais il y avait des visas et où il faudrait avoir le visa, mais c'était très difficile de les gagner. La plupart des migrations est partie en Europe, en France, en Allemagne, où il y avait des camps réfugiés, mais l'immigration n'a pas voulu rester en Allemagne. Tout le monde a voulu d'aller aux États-Unis. Et la France, la Grande-Bretagne, c'était peut-être le compromis pour eux. Donc en France, il y avait un exil très fort, ou une immigration très forte, en 48-49, au début des années 50. Mais après, la plupart de ces gens sont partis aux États-Unis.
Donc en fait, la France était une sorte de, finalement, d'arrêt temporaire sur la route des États-Unis.
Oui, c'est ça. Juste un peu de gens ont resté en France. Et c'était peut-être aussi les raisons personnelles pour qu'ils se sont décidés de rester là-bas. Parce que c'était, par exemple, le jeune homme qui s'est marié avec une Française, donc ils sont décidés de rester en France. Ou bien ils ont gagné un travail très intéressant, donc ils se sont dit pourquoi commencer de nouveau aux États-Unis quand si j'ai le travail en France. Donc si quelqu'un a resté en France, c'était soit des raisons personnelles ou des raisons professionnelles, soit qu'ils ont un lieu très proche, c'était le cas de Hubert Trypka.
Qui faisait partie du gouvernement tchécoslovaque avant le coup de Prague, en fait.
Oui. Sa femme était une Française, donc c'était, pour eux, c'était une certitude de rester en France. Mais c'est vrai que Hubert Trypka a beaucoup voyagé.
Ces personnes qui s'installent, donc, dont vous dites qu'ils restent souvent pour des raisons personnelles, est-ce que c'est des personnes qui se côtoient? Est-ce que finalement ils forment une communauté soudée, homogène? Est-ce qu'ils se rencontrent? Et s'ils se rencontrent, dans quel cadre? Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des lieux de rencontres privilégiés dans la mesure où ils sont dans la même ville? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas tous à Paris.
Je dirais que un point commun pour eux, c'était Paris, que la plupart d'eux ont resté à Paris. Il y avait aussi les autres lieux, mais la plupart des émigrés ont resté à Paris. Au début, dans les années 50, les gens ont encore cru qu'il y aurait de revenir bientôt en Tchécoslovaquie. Donc ils se sont organisés politiquement, il y avait des partis politiques, la démocratie sociale, les chrétiens, en fait presque tous les partis qui ont existé en Tchécoslovaquie avant la coupe, mais il y avait le conseil de la Tchécoslovaquie libre, le siège de la Tchécoslovaquie libre était aux États-Unis, mais il y avait aussi le siège parisien. Ils se sont organisés, ils ont essayé de faire quelque chose pour libérer la Tchécoslovaquie, mais à la fin des années 50, en fait, le point très important était l'insurrection de Hongrie.
En 1956.
Oui, en 1956, quand le monde n'a pas réagi. Donc, je dirais qu'on peut voir un peu un certain type de résignation. Jusqu'à 1956, le mouvement politique était très fort, mais puis ça, c'est pas si fort après 56. Et je dirais que après l'exil tchécoslovaque à Paris, c'est un exil des individualités très fortes qui se sont essayées de faire quelque chose, mais pas.
Pas de manière organisée, en fait. C'est des individus qui, tout seuls, en fait, font un travail, finalement, de résistance, entre guillemets, mais de manière très individuelle.
Oui, comme ça, parce qu'il y avait les groupes en 1960, par exemple, par...
Il est revenu des États-Unis, déjà, oui. Pour fonder Svedetsvi à Paris.
À Paris, donc, il y avait le groupe de Svedetsvi. Il y avait l'autre groupe de la mission catholique qui était aussi très fort, qui a essayé d'aider. Puis il y avait par exemple M. Vrzala qui a travaillé dans les structures européennes. Il était très actif dans les structures des chrétiens européennes. Et donc il a voulu que la Tchécoslovaquie reste dans l'Europe, que l'Europe n'oublie pas la Tchécoslovaquie. Puis il y avait un mouvement ouvrière qui était aussi très fort. C'était par exemple Paul Bartoň qui a travaillé dans les forces ouvrières. Il a essayé de relever les fautes du communisme et de montrer que c'est pas ce qu'on pense.
Donc il y avait quand même une opposition de gauche, quoi, finalement,
oui.
En fait, au régime communiste, mais en exil, de nouveau.
Oui, en exil, de nouveau, oui. Oui, puis il y avait le groupe de Monsieur et Madame Dubénové, qui ont aussi... C'était la même chose pour Madame et Monsieur Fischera. Donc il y avait plutôt des groupes qui ont essayé de faire quelque chose d'après la manière qu'ils ont pensé que c'est la meilleure chose qu'on peut faire, mais pas un
mouvement commun,
oui,
quoi.
Oui, mais ils ont coopéré, mais il n'y avait pas une seule organisation qui a travaillé systématiquement pour faire quelque chose.
D'accord. Comment ces personnes qui arrivent en France sont-elles accueillies par les Français, en fait, par déjà tout simplement par l'administration française, tout bêtement?
Donc ça dépend parce que chacun a ses propres expériences, mais il me semble qu'en 1948, l'atmosphère en France n'était pas favorable pour les exilés, pour les émigrés. Je dirais que...
Le parti communiste déjà français était très fort.
Oui,
peut-être
oui.
Que ça n'aidait pas forcément à l'accueil de personnes qui fuyaient un régime communiste.
Oui, c'est ça, parce que, comme vous disiez, il y avait un très fort mouvement communiste. Et les gens qui ont cru cette communiste, ils ont dit « Mais vous avez un paradis sur terre, pourquoi vous avez quitté ?» Peut-être vous étiez les fascistes ou pourquoi vous avez quitté la Tchécoslovaquie, c'est bizarre. Soit ça, ou bien il faut toujours penser que c'était l'Europe après-guerre, il y avait une pauvreté parce que la France était...
C'était détruite finalement.
Oui, détruite. Donc c'était très difficile de vivre. Donc il y avait... Les Français, on était pauvres. Et donc, il n'y avait pas la place encore pour les émigrés qui ont faim et qui ont voulu manger aussi parce que c'était difficile.
Et tous les détails, c'était Lucie Niemeczkova, la directrice du festival Afrique en création. Tous les détails sur ce festival, vous les retrouvez sur internet au www.africaonline.cz ou bien sûr sur le site internet de Radio Prague, www.radio.cz. C'est déjà la fin de ces faits et événements, mais le programme en français continue avec un nouveau chapitre de l'histoire. Et avec aujourd'hui comme sujet, je vous le disais un peu plus tôt, la crise nucléaire, ou un retour plutôt sur la crise nucléaire ukrainienne ou soviétique. Pour Dana Drabova, la directrice de l'Agence tchèque pour la sécurité nucléaire, la catastrophe nucléaire au Japon n'aura pas d'impact en Europe. Mais d'après les experts, les fuites radioactives encore en cours dans la centrale de Fukushima ne représenteraient que 10% de celles émises à Tchernobyl. C'était en 1986. Un événement qui appartient déjà à l'histoire, mais qui n'a pas fini d'alimenter les fantasmes. C'est donc dans ce nouveau chapitre de l'histoire une interview de Dana Drabova réalisée par David Allon.
Chapitre de l'histoire.
Bonjour Dana Drabova. Alors au jour d'aujourd'hui, a-t-on pu évaluer l'impact de la catastrophe de Tchernobyl en République tchèque ?
Nous sommes convaincus que nous connaissons l'étendue des conséquences de Tchernobyl en République tchèque. Le niveau des radiations a été mesuré et a donné des taux très bas, proches des radiations que l'on trouve habituellement en milieu naturel. L'impact de Tchernobyl sur le territoire tchèque est négligeable. Les Tchèques ont eu et ont toujours du mal à le croire. C'est là la conséquence directe du manque de communication et de transparence sous le communisme. En 1986, il y avait peu d'informations. Durant les journées qui ont suivi la catastrophe, les gens recevaient des nouvelles de Radio Liberté, Radio Free Europe et d'autres radios étrangères, mais les faits se contredisaient et personne ne savait démêler le vrai du faux. Dès le début, nous avons pu mesurer et estimer le taux de radioactivité. Et j'y ai d'ailleurs participé personnellement puisque je débutais alors ma carrière. Malheureusement, aujourd'hui encore, la plupart des gens sont convaincus que le niveau de radioactivité aurait pu endommager la santé de la population. Ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je doute qu'en France, les conséquences aient été différentes.
Aucune chance donc que nous mangions des fruits ou des légumes radioactifs en République tchèque comme en France.
Nous avons eu affaire à un cas intéressant et en relation avec l'actualité puisque le même problème s'est rencontré au Japon. Il s'agissait de la contamination d'épinards de printemps par les éléments radioactifs. La solution fut très simple car ces épinards étaient surgelés et n'étaient pas encore passés par le circuit de distribution commerciale. Durant la congélation, la radioactivité avait disparu. Ce cas de contamination par les iodes radioactifs a été résolu de la même manière au Japon.
Et le rideau de fer a-t-il fait une différence concernant les retombées de Tchernobyl ?
Les retombées de Tchernobyl ont été beaucoup plus importantes en Autriche qu'en Tchécoslovaquie, même si elles n'ont pas causé de dommages directs. Altitude oblige, ce sont les Alpes qui ont capté une grande partie de la radioactivité. Aujourd'hui, certains niveaux de radiation sont enregistrés en République tchèque, mais elles proviennent des missiles de défense utilisés dans les années 1960, lesquels avaient créé des retombées atmosphériques. Pour Tchernobyl, il n'y a aucun risque, d'autant plus qu'aujourd'hui, le facteur temps qui joue un rôle très important 25 ans après a pu déjà produire ses effets. Et n'oublions pas que presque un millier de kilomètres nous séparent de Tchernobyl. La surveillance d'État de la sécurité nucléaire a une longue histoire d'environ 50 ans. Dès que l'idée de construire une centrale nucléaire en Tchécoslovaquie fut émise, c'était en 1955, des outils de base avaient été mis en place pour réguler les risques.
Existait-il des contacts entre chercheurs tchèques et occidentaux sous le communisme ?
Oui, les contacts avec les soviétiques n'étaient pas les seuls que nous avions dans le domaine nucléaire, car ce domaine, durant la période communiste, devait entretenir des contacts avec l'étranger. La discipline repose en effet sur le partage des expériences. Le rideau de fer était donc beaucoup plus perméable que pour les autres affaires. Il n'existait pratiquement pas dans le domaine de la recherche nucléaire.
Česká republika nebo tehdejší Československo
Dès l'époque communiste, la Tchécoslovaquie collaborait très activement au niveau des organisations internationales pour l'énergie nucléaire. On le sait peu, mais le premier président de l'Agence internationale pour l'énergie atomique était slovaque plus exactement. En 1957, la Tchécoslovaquie faisait partie des États fondateurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Dans ce contexte, de nombreux contacts ont pu être noués.
Států Československo tam aktivně pracovalo a i touhle spoluprací ta naše infrastruktura velmi získala a
Par ailleurs, notre infrastructure a beaucoup bénéficié de la collaboration soviétique grâce au fait que nous avons construit des réacteurs à pression d'eau de plan soviétique. Très vite, nous avons été capables, après la révolution de velours, de les amener aux standards occidentaux. Mais encore une fois, à l'intérieur du bloc soviétique, le niveau technologique était comparable avec ce qui se faisait à l'Ouest. Beaucoup de gens ne le réalisent pas.
S těmi západními, řekněme, standardy.
En 1949, l'URSS se dote de la bombe atomique. La Tchécoslovaquie a-t-elle envisagé de devenir une puissance nucléaire militaire sous le communisme ?
Non, jamais. Depuis le début, notre programme était déclaré comme étant pacifique.
Et vous pensez que ce sera toujours le cas ?
Oui, je le pense. Si de plus en plus d'États, en dehors de ceux qui ont été officiellement autorisés, se dotent de l'arme nucléaire, c'est tout le système de l'équilibre international qui s'effondre. Concernant la République tchèque, c'est donc hors de question. Quel que soit le nombre d'États qui essayeraient de se procurer la bombe atomique, il s'agit là d'une grave remise en cause de l'ensemble de la sécurité globale. C'est pourquoi nous restons préoccupés par certains pays comme la Corée du Nord ou l'Iran. La tendance devrait être la suivante, essayer de se concentrer sur les 5 pays qui disposent légalement de la bombe et faire en sorte qu'ils s'en débarrassent, donnant ainsi l'exemple. Ça devrait aller dans ce sens et pas dans l'autre. La République tchèque a toujours eu cette ligne et fut parmi les premières à signer et à ratifier le traité de non-prolifération nucléaire.
Loin d'être alarmiste, Dana Drabova évoque donc une situation post-communiste ne présentant a priori pas de danger dans le domaine nucléaire. Bien sûr, elle l'admet elle-même, il faut constamment essayer d'améliorer la sécurité nucléaire. Les événements du Japon le prouvent tragiquement.
C'était un nouveau chapitre de l'histoire très nucléaire présenté cette semaine par David Allon. Et c'est déjà la fin du programme en français de Radio Prague. Retrouvez-nous sur internet au www.radio.cz.